Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Juché à mi-pente des Raspes du Tarn, Mathieu cultive des vignes pour faire du jus, en plus de son activité principale, la maçonnerie. C'est toutefois la passion qui l'anime lorsqu'il parle de raisin. Bonjour Mathieu, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Eh bien voilà, ben moi je m'appelle Mathieu. Où est-ce que je vis ? Ici on est à Cognac. C'est, on va dire, dans la vallée du Tarn, Brosse-le-Château, Réquistan. Je fais manche artisan, principalement comme métier et on va dire comme activité secondaire, une activité d'agriculteur. Mais on va dire de revenus modestes. Mon activité, c'est mon grand-père avait une vigne. Du moins, à un moment donné, il n'y a plus personne pour travailler la vigne. Et puis moi, j'avais du temps. Donc du coup, j'ai commencé à travailler la vigne comme ça. Finalement, de fil à aiguille, au début, c'était pour faire du vin. Et de fil à aiguille, voilà, moi, je ne bois plus d'alcool et je fais que du jus. Donc aujourd'hui, mon activité, voilà, c'est de faire du jus de raisin. Il y a quelques fruitiers aussi. Mais bon, pour l'instant, les fruitiers, ce n'est pas vraiment une activité. J'aimerais bien que ça devienne, que ça grossisse. Mais bon, on verra, c'est planté pour l'avenir, on verra.
Tu as deux activités, artisan dans la maçonnerie peut-être ?
Dans le bâtiment, ouais.
Dans le bâtiment, ouais. Et l'agriculture. C'est un choix ou c'est par dépit que tu cumules deux activités différentes ?
Ouais, c'est un choix parce que de toute façon, si l'agriculture, ça ne me rapporte pas d'argent.
Et toi, tu aurais préféré ne faire que agriculteur ?
Oui, voilà, le bâtiment, je laisserai tomber, ouais, même si maintenant, je m'y connais bien dans le bâtiment, mais je laisserai tomber, ouais. Mais après, est-ce que vraiment je voudrais être agriculteur ? Tu vois, la question s'est pas posée comme ça. Mmh. Enfin, moi, j'aime bien tout ce qui est nature. Je me renseigne pas mal sur tout ce qui est méthode de production, on va dire, en respect de la nature. J'y suis venu par hasard. Puisque, si tu veux, mon grand-père, enfin, il y avait cette vigne-là qui était laissée à l'abandon. Après, ouais, ça m'a plu, puisque du coup, j'ai essayé de replanter un peu des fruitiers. Enfin, voilà, j'aimerais bien essayer de voir, de développer là-dedans. Même si bon, j'ai très peu de connaissances, c'est modeste, on va dire encore.
Et donc, tu as à peu près combien de pieds de vigne ?
1000 à peu près. 1000 pieds anciens, on va dire, et j'en ai replanté 200 à peu près.
Et les arbres fruitiers, tu en as replanté combien ?
Les arbres fruitiers, si tu veux, mon grand-père, il y avait, on va dire, une quinzaine de pommiers, et quelques 7 ou 8 figuiers, une vingtaine de pêchers, et une vingtaine de coings à peu près, de cognassiers. Mmh. Et moi, j'en ai replanté, je sais pas, j'ai replanté une soixantaine de pommiers, je pense. Et après, j'ai dû replanter abricots, oliviers, pêchers, 10 de chaque ou 15 de chaque. Quelques cerisiers que j'ai greffés.
Voilà. Et c'est pour vendre des fruits ou faire des jus aussi ?
Pour l'instant, j'ai pas ramassé de fruits dessus. Donc, je sais pas.
Il faut attendre combien de temps, à peu près ? 10 ans ?
Ouais, il faut attendre peut-être 10 ans, ouais, 5 ans. Après, moi, ça pousse pas très vite chez moi. Donc, si tu mets de l'engrais, que tu es en terre bonne et que tu mets de l'engrais, ça peut aller vite. Mais bon, voilà, mon engrais chimique, c'est pas mon truc. La terre, elle est un peu lourde, peut-être. C'était, en fait, ici, il n'y avait que de la vigne avant. Du coup, ça a été peut-être surexploité. Et du coup, les terres, elles sont peut-être un peu pauvres maintenant. Du coup, voilà, moi, ça pousse pas super vite.
Et alors, tu dis bon, que tu es venu par hasard, mais tes parents, ils étaient agriculteurs ou pas ?
Mon grand-père, mes grands-parents.
Seuls tes grands-parents ?
Ouais, mes grands-parents, ouais. Je connais parce que j'ai tout ça, je connais parce que j'étais avec mon grand-père, hein, donc il m'avait un peu renseigné sur les lieux. Après, sur la culture, j'y connaissais rien.
Et alors, t'as fait comment pour apprendre alors ?
D'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, c'est ce que j'allais te dire. Sur la culture, par exemple, comment j'ai fait pour apprendre ? Tu vois, normalement, quand je reviens, il y a un hiver, je taille la vigne avec un papy, mais qui était vraiment très ancien et qui avait du mal. Et l'hiver d'après, donc il revient plus, parce qu'il est trop vieux, il est trop fatigué. Au fil des années, moi je fais un peu ce qu'il m'a dit. Au fil des années, il y avait un mec qui passait, tu vois, qui me disait non, pourquoi tu fais comme ça, faut que tu fasses comme ça. L'autre, il s'arrêtait 10 minutes plus tard, il me disait pourquoi tu fais comme ça, faut que tu fasses l'inverse de ce qu'il m'avait dit le premier. Donc ça, c'est marrant, tu vois. Et comment j'ai appris ? Mais un jour, j'ai ouvert des bouquins, quoi.
Ah oui.
J'ai ouvert un bouquin, la taille de la vigne. Mon tonton, il s'y connaît en pinard. J'ai compris que les gens d'ici, ils savaient rien sur la vigne. Tu vois, c'est pas un pays à vigne ici. Ouais. Et puis surtout, il y a la science et la recherche qui est passée par là, parce que du coup, la France, bon, voilà, c'est un gros business, donc du coup, il y a énormément de moyens pour la recherche. ils savent maintenant, enfin, on sait énormément de choses qu'avant on ne savait pas. Et les anciens, ils ne savent pas tout ça. Et du coup, en fait, voilà, pour la taille ou pour énormément de culture, en fait, mais bon, pour la taille, en fait, les gens, ils ne savent pas. Du coup, il y en avait qui me disaient faux, ils ne savaient pas pourquoi c'était faux. Et il y en avait qui me disaient vrai, ils ne savaient pas non plus pourquoi c'était vrai. Tu
vois. Et ça fait combien de temps donc, que tu as repris l'affaire, si je puis dire ?
Plus de 10 ans, ouais, ça fait une bonne. Ouais, ça va faire, ouais, ça va faire entre 10 et 15 ans, ouais. Au moins entre 10 et 15 ans,
ouais. Ouais, t'as un bon recul déjà quand même.
Et ouais, ça commence à s'enchaîner les années, ouais. Ça fait quand même quelques années que je suis là, mine de rien, tu vois. Parce que c'est pas évident de tenir une vigne, en fait. Mm. Parce que si tu veux. Bon, moi j'étais quand même jeune, je bougeais, voilà, j'aimais bien bouger. Mais après, la vigne, il faut être là. À part, on va dire, 4 mois ou 5 mois d'hiver. Mais après, depuis maintenant, là, mars, il y a la taille. Bon, après, t'es tranquille jusqu'au début mai. Mais après, à partir de mai, t'as les traitements. Donc, bon, moi, je suis en bio. Enfin, en bio, je suis pas en bio, je suis en Nature et Progrès, qui n'est pas reconnu comme bio, mais bon, c'est normal, c'est plus sélectif que le bio. Donc, du coup, ben, j'ai utilisé le cuivre et le soufre. Et ça me fait pas plaisir d'en mettre, mais bon, en tout cas, l'année dernière, enfin voilà, si je veux trop économiser sur les produits, j'en mets très très peu, mais si je veux trop économiser, après j'ai des problèmes avec les champignons, et surtout bon, les raisins, ils sèchent. Mais en tout cas, c'est pas évident, parce que du coup, à partir de avril, enfin mai, il y a les traitements, après, bon, il faut couper l'herbe, il y a pas mal d'entretien, raccourcir les branches, voilà, enfin, du coup, il y a une bonne partie de l'année, trois quarts de l'année, où tu dois être sur place. Et puis voilà, et puis la vigne, tu peux pas manquer un an. Les fruitiers, imagine, tu as 200, 300, 500 fruitiers, tu t'en vas un an, et qu'est-ce qui se passe? Les fruits, ils tombent par terre, et puis voilà, c'est tout. Mais la vigne, si tu tailles pas de un an, ben après, c'est très difficile à rattraper. Si tu tailles pas de trois ans, c'est presque irrattrapable. Et tu as plein de maladies qui se mettent, des champignons. Enfin, maladies, c'est pas des maladies, c'est des champignons. Et du coup, tu risques d'avoir de gros dégâts. Donc la vigne, c'est vraiment. En plus, c'est vraiment constant. Et c'était un truc qui me manquait, moi. La constance. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis capable de faire un truc, tu vois, je vais faire un truc, mais après, je reste pas. Tu vois, je fais des trucs un peu partout. Un peu partout, tu vois. Mais la vigne, ça pardonne pas, ça. Ouais. T'es obligé d'être là.
Alors, je sais qu'avant, toute la vallée du Tarn, il se faisait de la vigne. Mais c'est pas super propice, quand même, enfin, le climat. C'est quand même, il peut faire froid, même au printemps, même au début de l'automne. Il n'y a pas un ensoleillement de fifou. Est-ce que les variétés que vous avez ici sont adaptées ou c'est les mêmes que celles qu'on a dans le Midi?
Bon, après, les deux meilleurs vins au monde, enfin reconnus, c'est
Bourgogne.
Bordeaux et Bourgogne. Bourgogne, il fait plus froid qu'ici.
Ouais, certes, mais c'est sec.
Quand tu vas en Suisse, il y a des vignes en Suisse.
Oui, en Allemagne aussi.
À 1000 mètres, en Allemagne aussi. Hein? T'imagines? C'est quand même plus froid qu'ici. Et non, et après, la vallée, ce qu'il y a, c'est que la vallée du Tarn, c'est super protégé. Donc
protéger des vents, tu veux dire, hein, notamment.
Eh ouais, c'est versant sud. Ah. Et protéger du vent, ouais. Donc ouais, t'as un super ensoleillement, ouais.
Entre l'artisanat et l'agriculture, c'est à peu près quelle part de tes revenus?
Bon, après moi, l'agriculture, je gagne rien du tout. En fait, si tu veux.
Tu fais pas ça pour gagner des thunes.
Non, je fais ça parce que si tu veux, la vigne est là et que je peux pas laisser tomber ou sinon c'est fini, je l'arrache. Donc voilà, après, bon, je suis content de le faire. Enfin bon, je suis content parce que là, cette année, j'ai du temps. Les années où j'ai du temps, je suis content. Les années où je bossais beaucoup en maçonnerie, là, j'étais pas vraiment content. C'était pas vraiment marrant. Mais après, sinon, c'est marrant d'être au soleil. Voilà, tu es dehors, enfin, c'est bon. Travailler au soleil, enfin, c'est tranquille. Et voilà, on va dire que c'est un passe-temps. Même si c'est pas un truc pour les week-ends, quoi, parce que ça me prend un peu plus de temps quand même que les week-ends, donc je suis obligé de le mettre sur la semaine. Mais après, est-ce que ça me rapporte? Ben, si tu veux, moi, regarde, j'ai fait grosso modo, les bonnes années, j'ai fait 1000 litres de jus. Moi, je fais un peu plus, un peu moins. 1000 litres de jus, mes bouteilles, je les vends, bon, en magasin, elles sont presque 4 euros, mais moi, je les vends à peu près à 3 euros. Mais je compte qu'avec l'embouteillage, déjà, l'embouteillage et les frais que je laisse, je compte aller, que je perds 1 euro. Ça veut dire que je vends la bouteille 2 euros. Donc si tu veux, ça va me faire aller 1500 euros de revenus, une bonne année.
Pour une bonne année.
C'est un SMIC mensuel, un mois.
Ouais, de 1 mois.
Ouais, et ce qu'il y a, c'est qu'après, il faut compter les heures. Ouais. Et les heures, j'arrive pas à les compter, j'y passe trop de temps, voilà, je sais pas. Chaque année, je veux les compter, je commence et j'arrive pas, comme j'y passe du temps, c'est un peu par-ci, un peu par-là.
Et alors, comment est-ce que tu vends ce que tu produis?
Mais pendant longtemps, j'ai vendu qu'aux gens que je connais. Mais bon, mine de rien, bon après c'est pas une grosse production, mais mine de rien c'est un peu fastidieux parce que je suis obligé, voilà, je suis obligé d'y penser tout le temps, de le proposer. Il y avait des gens qui le redemandent, mais voilà, de le proposer, puisque du coup, voilà, ça marche bien quand je le propose, les gens ils sont super contents. Et puis à un moment donné, pendant longtemps, j'ai réfléchi de me mettre dans un magasin. Et aussi le label bio, ouais, je réfléchissais à ça. Et du coup, là, maintenant, je me suis dit, je vais essayer ça. Donc, je me suis mis à la Biocoop avec le label bio, du coup, enfin, Nature et Progrès. Je me suis dit que ça me permettrait peut-être de me dégager du temps de la vente, voilà, que je m'en fiche finalement de la marge. Pendant longtemps, j'ai reculé parce que, voilà, ça me faisait perdre une marge importante. La marge, donc, du commerçant, bon, ce qui est logique. Et puis, finalement, je me suis dit, bon, on verra, je vais essayer. Je me suis dit, donc là, maintenant, il est à la Biocoop, dans plusieurs Biocoop. Et d'autres magasins, d'ailleurs, qui sont pas bio.
Alors, même si c'est pas ton métier à part entière, tu as quand même une bonne connaissance du milieu agricole. Et est-ce que c'est un métier que tu conseillerais à quelqu'un qui veut s'installer, imaginons, hors cadre familial, il veut se lancer. Est-ce que tu le conseilles, ce métier-là? Et si oui, sur quoi tu mets en garde?
Moi, de mon expérience, ce que je conseille, c'est de travailler avec ses mains, ouais. Parce que je suis dans le bâtiment et que, voilà, que je bosse avec mes mains. Et que quand ça tourne trop dans la tête et que voilà, je réfléchis trop, et bien, quand je suis sur le chantier, ça, je fais un truc avec mes mains, au moins c'est quelque chose de productif et qui remet les pieds sur terre. Mmh. Et après, voilà, que ce soit artisan dans le bâtiment ou que ce soit après dans la nature, après la nature c'est notre cadre qui est vraiment excellent. Après, ce que je conseille à se mettre dans... tu veux parler de philosophie. Mmh. L'agriculture, il y a deux agricultures aujourd'hui. T'as l'agriculture subventionnée et t'as l'agriculture non subventionnée. C'est deux métiers différents. Donc alors, si t'es maraîcher, viticulteur comme moi, ou t'as intérêt... Enfin, c'est un petit métier qui sont pas subventionnés. Qui sont pas productivistes. C'est un super métier, mais après, pour gagner des sous, c'est compliqué, ou alors il faut être malin. Après, il y a notre agriculture qui est subventionnée, voilà, qui est pas mal aussi, hein, que j'aime pas du tout, jusqu'à il y a peu, mais finalement, comme maintenant, je reconnais, parce que du coup, il y a pas mal de gens que je connais qui sont dedans. Et c'est notre logique, voilà, c'est gros tracteur, gros investissement, mais bon, finalement, ouais, ça empêche pas d'aimer son travail, ouais, je crois.
Faut être un chef d'entreprise, faut être un bosseur.
Faut être assez intelligent quand même, faut savoir réfléchir, hein, parce que sinon. Ou alors sinon, faut être dans le cadre PAC. Mmh. Donc dans ce cas-là, tu fais ce qu'on te dit de faire et puis voilà. Ouais, si tu veux sortir de ça, si tu veux arriver à gagner des sous, faut savoir réfléchir, ouais. Faut être malin quand même.
Est-ce que tu as une idée, toi, de ce que pourrait être l'agriculture, que ce soit la tienne ou l'agriculture globalement, dans 10 ans, dans 20 ans?
Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est les drones, mais bon.
Les drones. Déjà qu'il y a des tracteurs GPS qui roulent tout seuls.
Ouais.
Toi, tu verrais des drones aussi.
Ben, des drones, ouais. Ben, disons un drone à 4 roues, ouais. Un petit tracteur qui va démarrer tout seul à 4h du matin. Ou même qui s'arrêtera pas la nuit, qui fera les 3-8, ouais. Ben, de toute façon, on y est là. Ça existe déjà, hein.
Oui, dans les grandes plaines et tout ça, non?
Ouais, ben, c'est sûr, il prendra pas la route tout seul. Mais ouais. Non, dans les grandes plaines, ça sera encore différent peut-être. Mais...
Tu penses que même ici, c'est possible, avec les reliefs qu'on a et tout, que les machines soient complètement autonomes?
Bon, tout, non, parce que... Mais bon, en tout cas, tout envers ça, ouais. Donc que dans les élevages, les rations, elles sont données automatiquement, que les portes s'ouvrent à telle heure pour laisser sortir le troupeau et qu'ils vont dans telle pâture, voilà, c'est avec les systèmes de barrières. Mmh. Oh, c'est même pas le futur, c'est aujourd'hui, ça existe déjà. Y a rien de compliqué, y a rien de, c'est voilà, il suffit juste de mettre un peu de moyens et les gens ils font ça. Ah. Ah, y a deux visions qui se télescopent, ouais, on verra, ouais, y a celle-là, tu vois, du plus gros, et de toute façon faut savoir que 99% de la France, enfin du monde occidental, est nourri comme ça quand même, par nos voisins qui ont 100 ou 200 hectares avec des tracteurs énormes et des roues plus grandes que moi. Et voilà, tout le monde vide, enfin, tout le monde mange avec ça. Mmh. Il y a cette vision-là, avec qui va s'automatiser, de toute façon, que voilà, c'est sûr et certain. Hein. Mmh. Encore. Hein. Mais il y a l'autre vision avec des petites exploitations, ouais.
Avec des méthodes traditionnelles.
Petite exploitation, méthodes traditionnelles, ouais. Être plus proche du vivant. Et plus proche aussi peut-être du plaisir, ouais. Mais bon, c'est peut-être un peu plus difficile aussi. Moi, ce que je souhaite, c'est que les gens qui font, ils trouvent du plaisir quand même à ce qu'ils font. Et après, moi, ce que j'essaye, c'est du mieux que je peux ou du moins mal que je peux, d'essayer de comprendre un peu le vivant et de ne pas se battre contre lui et d'essayer de l'arrêter. Ouais.
If water can go use. If water can... passer à la visite nature éprouvée. Une fois par an, tu sais, on a la visite. Une fois par an, on a la visite nature et progrès. Et du coup, il y a un producteur et un consommateur qui viennent me rendre visite pour faire l'enquête. Et du coup, voilà, on passe un moment à discuter, à rigoler.
Pas rigoler trop fort non plus.
Façon de parler, mais c'est un moment de contrôle, mais bon, c'est un moment agréable. Voilà, c'est aussi un moment où c'est que tu sais, tu t'assois et tu discutes. Et du coup, tu discutes. En fait, c'est un moment où c'est que tu discutes de ce que tu fais. Et tu le fais pas, tu t'en parles. Tu dois expliquer. C'est notre façon, tu vois. C'est notre façon d'envisager le truc. Bon, c'est intéressant aussi.
Donc là, on arrive sur un champ qui est collé à ta maison. Donc sur ce champ, il y a un mélange de vignes et d'arbres. Il n'y a pas beaucoup des arbres.
Quels arbres tu parles ?
Là, celui-là là-bas.
Ça c'est un cognassier.
Ouais.
Ça c'est un cognassier, ouais. C'était les arbres de mon grand-père.
D'accord. Et donc là, tu as commencé la taille. Parce que je vois que c'est des vignes
là,
taillées,
j'ai
mais d'autres.
La taille, ouais. Tu vois, j'ai fait toute cette parcelle là au bout. Mm-hmm. Tout ça là, c'est fait.
Ouais.
Après, j'ai fait ces trois rangées ici. Mmh. Et après tout ça, j'ai pas fait encore.
Tu sais à peu près combien de temps tu passes par pied ?
Non, mais par pied, c'est trop variable parce qu'entre un petit ou un gros, ouais. Ça n'a rien à voir. Surtout que moi, j'ai des faibles et des jeunes, donc ils sont petits. Et après, j'ai des gros énormes là-bas. Mmh. En fait, la vigueur d'un pied, ça va du. Il y a des pieds où c'est que j'ai, sur les petits, tu vois, j'ai deux branches. Mmh. Et sur les gros, j'en ai 40, on va dire.
Donc,
tu vois, deux branches, ça fait deux coups de sécateur. 40 branches, ça fait 40 coups, enfin 80. Tu peux le faire à peu près tout l'hiver. Tu peux le faire depuis décembre que ça perd les feuilles, jusqu'au mois de, on va dire, début avril, jusqu'à même mi-avril. Et tu peux même, après mi-avril, on appelle ça une taille tardive. C'est-à-dire que la vigne, elle n'a pas vraiment encore débourré, c'est-à-dire que les bourgeons, ils n'ont pas grossi, ou c'est juste le moment. Et là, tu peux encore tailler. Mais c'est une taille tardive, donc une taille tardive, c'est, on va dire, pour reculer... Le débourrage, c'est-à-dire que ça débourre plus tard, ça peut avoir un intérêt, mettons, en période de gel, si tu sens qu'il va geler, par exemple. Si c'est trop hâtif, tu vois, et que voilà, ça peut avoir cet intérêt-là.
Et ça te fait des vendages plus tardives aussi, non ?
Toi, tu parles par rapport à ce qu'on appelle vendage tardif ?
Ouais, fait, c'est, si tu tailles tard, est-ce que tu récoltes plus tard ?
Normalement, ouais, si tu tailles tardivement, ça va débourrer un peu plus tard, donc tu vas récolter peut-être un peu plus tard, ouais. Ça doit jouer, ouais. Ça doit jouer d'une semaine, ouais.
Et donc, là, effectivement, ton champ est en herbe. Il y a même des ronces qui poussent.
Des ronces, ouais.
Et à côté des arbres fruitiers, aussi, tu les tailles ?
Non, les fruitiers, je taille pratiquement pas.
Ah bon ? Par choix ou par...
Ils n'ont pas besoin de moi. Ils n'ont pas besoin de moi, si. Après, ils donnent, voilà. Non, je ne les taille pas, ouais. Non, et en fait... Pourquoi les tailler alors qu'ils s'est débrouillé très bien ?
Moi, je veux pas t'en rajouter du travail. Hein. Et alors, ton jus, c'est toi qui le presse ? C'est toi qui le fais ? T'as les machines et tout ?
Le jus, ouais, une matinée, là, dans l'année, on récolte. Hein. Après, j'amène à la cave, là-haut. C'était la cave de mon grand-père. Mm-hmm. Il y a le pressoir. Il y a une cuve encore, il y a des barriques, je ne m'en sers plus. Mais le pressoir, ouais, ça sert et du coup je le presse. Ouais. On fait à peu près 1000 litres et après je l'amène à... Enfin après il faut que je me débrouille pour le faire pasteuriser. Donc soit je l'amène à pasteuriser ou soit ça m'est arrivé de faire venir le pasteurisateur ici. Voilà, pour le pasteuriser et mettre en bouteille.
Et donc pasteuriser, c'est quoi comme démarche ?
Pasteuriser, en fait, c'est chauffer le jus à 75, on va dire, degrés, pour détruire les bactéries qui sont à l'intérieur et qui feraient fermenter le jus, c'est ça.
Mais ça veut dire que tu le mets sur un feu, juste, et tu laisses bouillir, ou il y a des systèmes...
Disons que là, le procédé, comme il y a 1000 litres, bon, c'est un peu fastidieux. C'est un serpentin dans un bain-marie. Donc tu fais passer un serpentin, un échangeur on appelle, là c'est un échangeur à plaque. Et tu fais passer un échangeur dans un bain-marie et il y a un thermomètre de contrôle sortie. Et donc tu contrôles la température, voilà, que suivant le débit, tu peux ajuster la température de sortie avec le débit.
Et toi tu peux pas le faire ça, ou alors c'est de trop gros investissement?
Si, ben, un pasteurisateur ça vaut 10 000 euros, 5 ou 10 000 euros, donc je peux l'acheter.
Ah
mais
oui.
Bon.
D'occasion.
D'occasion c'est rare.
Pour revenir sur ta vigne, c'est quelle variété les pieds de vigne ?
Alors, variété, mon grand-père, il avait planté du carignan, qui est un cépage méditerranéen, plus, qui adore le chaud, et qui a un goût muscaté quand il est mûr. Et il avait planté du jurançon, qui est assez productif, ouais, qui est assez sucré, qui est bon à manger, en tout cas. Et il avait planté de l'alicante. La particularité de l'alicante, c'est que c'est un teinturier. En fait, si tu veux, à l'époque, il s'est servi pour avoir du violet, je crois. Mmh. Il s'est servi de ce raisin-là parce qu'en fait, il a la peau qui est colorée, qui est rouge. Non, qui a le jus qui est rouge. Parce qu'en fait, si tu veux, dans un raisin noir, la peau, elle est noire, mais le jus est blanc. Il y a peut-être milliers de variétés, je ne sais pas combien de variétés, mais il y a des centaines de variétés de jus, de raisin noir en tout cas. Et dans deux variétés, ou deux ou trois, dont l'alicante, le jus, il est rouge. Quand tu presses le raisin, ça, c'est un jus rouge qui sort, et pas un jus blanc. Et du coup, celui-là, il s'est servi comme teinturier. Et moi, j'ai replanté du Syrah et du Chenin. Voilà, ça, c'était encore à l'époque où c'est quand je buvais un peu d'alcool. Mmh. Parce que le Syrah, on dit que ça améliore le goût. Mmh. Et le Chenin, c'était parce que j'ai du Mosaque en blanc et on voulait faire un petit peu de vin blanc. Voilà. Donc du Chenin, c'est un très bon... C'est un très bon cépage pour faire du vin blanc.
Mais donc, les variétés que tu utilises, c'est les mêmes que pour faire du vin. Le Syrah, le Carignan, tout ça, on fait du vin avec. C'est quoi qui fait que ça reste un jus et que ça prend pas de ré d'alcool?
La pasteurisation.
La pasteurisation.
En fait, si tu veux, tous les raisins ils sont mangeables, tu peux en faire du jus et tu peux en faire du vin. Mm-hmm. Ce qu'il y a, c'est qu'après, il y en a qui font des plus ou moins gros grains, plus ou moins de pépins, donc ça donne quelque chose de plus ou moins agréable à manger, mm-hmm. et qui sont plus sucrés, plus acides. Donc il y en a qui sont considérés comme des raisins de table. Pour la différence entre jus raisin, on va dire, à vin, c'est qu'il y a des raisins qui font beaucoup de productivité, mais assez peu de sucre, finalement, et donc, du coup, qui font très peu d'alcool. Donc ça donne des vins qui sont peu alcoolisés. On va dire, à l'époque, ils faisaient des vins à 6 degrés, parce qu'ils avaient des cépages très productifs. Aujourd'hui, moi, c'est pas la mode. La mode, c'est de boire un vin entre 12 degrés, 13 degrés. Sinon, même 10 degrés, voilà, on dit que c'est un vin, une piquette, on va dire. À 10 degrés, ça aime pas, les gens, ils aiment pas. Et le jus, ben en fait, tu peux faire du jus. En fait, si tu veux, le jus, on va dire, le jus de raisin, c'est un sous-produit. C'est un sous-produit parce que les gens qui font du jus, c'est soit des gens qui font du raisin de table, mais à des moments, ils en ont trop, donc du coup, ou alors ils ont des raisins qui sont moches et ils les passent en jus. Ou soit principalement des gens qui font du vin, et il y a des parcelles qui sont moches, enfin qui sont moins bien réussies, qui ont eu trop de maladies, donc du coup ils ne veulent pas les vinifier. Et, ou alors qui ont moins de maturité, qui ont plus d'acide, donc du coup c'est pareil, ils ne veulent pas les vinifier non plus, et donc ils en font du jus. Ça c'est tout ce qui est jus industriel, à grande échelle, même en bio, mais à grande échelle. Et si tu veux, moi bon après je pars des mêmes cépages que ça, ce sont des cépages à vin, principalement, même si le jurançon et l'alicante ils sont vraiment succulents, ils sont vraiment succulents. D'ailleurs, moi j'ai un problème, c'est que mon jus il est trop sucré, du moins il est très sucré. Donc, autant quand tu fais du vin, tu recherches à avoir énormément de sucre, autant moi j'ai un dilemme, c'est que plus je vendange tôt, moins j'ai de sucre, mais aussi moins j'ai de goût. J'aime bien ces cépages-là, ils ont énormément de goût, ils sont très gustatifs et ils ont beaucoup, beaucoup de fruits. Et voilà, j'aime bien les vendanger un peu plus tard parce que ça permet de développer énormément d'arômes. Ce qui développe l'arôme, les phénols, c'est en grande partie l'écart de température qu'il peut y avoir dans une journée, entre le jour et la nuit. Et ce qui fait que, par exemple, deux des meilleurs endroits pour faire du vin au monde, qui sont le Bordeaux et le Beaujolais, et ils sont dans des températures modérées et pas à Montpellier par exemple, tu vois, où c'est que tu as beaucoup de soleil et beaucoup de sucre. Tout ça parce que il y a eu la journée, il y a un ensoleillement fort, donc une bonne température, et la nuit il fait frais, et donc la température elle baisse, et ça permet, en fait ça donne à la vigne, ça la fait développer les phénols, donc tout ce qui est arôme. Et moi, si tu veux, la particularité un peu, c'est que le jus raisin, c'est mon produit principal. C'est-à-dire que je conduis la vigne pour faire du jus de raisin. C'est pas un sous-produit. C'est mon produit principal. Donc je m'applique pour faire du jus. Alors que les autres s'appliquent plutôt pour faire du vin ou plutôt pour faire des raisins de table.
Eh bien, merci Mathieu de m'avoir reçu.
Eh bien, merci, avec plaisir. Ouais. Ouais, voilà. Merci Franck.
Et peut-être à bientôt.
C'était un plaisir, ouais, de te recevoir et de parler un peu de la vigne. Ouais.
Tous nos remerciements à Mathieu pour nous avoir accordé de son temps libre. Cette émission est gratuitement disponible en podcast sur le site radiosaintafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.